1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. Au nom de Jésus. Nous prêchons donc que le Christ est revenu de la mort à la vie. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne viendront pas à la vie? Si c'est vrai, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas revenu à la vie, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu, puisque nous avons affirmé qu'il a ramené le Christ à la vie. Or, il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne reviennent pas à la vie. Car si les morts ne reviennent pas à la vie, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas revenu à la vie, votre foi est une illusion et vous êtes encore perdus dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Amen. Comment comprenons-nous ces deux versets que je vais vous lire? Le premier, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et vous connaissez la suite, et toutes ces choses vous seront données ensuite. Il y a même un cantique qui parle de cela. Le deuxième verset, dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ne vous étonnez pas quel est le lien avec le texte, je vais en venir tout à l'heure. J'ai fait exprès de prendre ces deux références bibliques parce que dans notre conscience collective chrétienne, je ne dis pas selon notre enseignement biblique, mais notre conscience collective chrétienne, la majorité pense qu'il faudrait peut-être haïr le monde et la terre et ne penser qu'au ciel, qu'au paradis. Beaucoup croient cela. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Même s'il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux » ou « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut », la Bible ne dit pas « Quitte le monde, aie le monde et ne cherche que la vie d'en haut. » Ça, c'est ce qui a été tout le temps cru dans le milieu piétiste puritain, surtout chez les protestants. Bref, on dit très souvent que ce qui est le plus important, c'est le salut de l'âme, et je souligne ce mot de l'âme, et non la vie terrestre. Eh bien moi, je ne suis pas du tout d'accord de cette idée, véhiculée par certains courants protestants. Pourquoi ? Parce que c'est aussi exactement la pensée de l'époque des croyants au temps de Corinthe, au temps de Paul à Corinthe, ici, qui était sous l'influence de la philosophie grecque de l'époque. Et quelle était cette philosophie grecque ? Que ce corps est une prison et qu'il fallait libérer l'âme, libérer l'esprit de l'emprise du corps. Et cet enseignement philosophique a été introduit même dans l'enseignement des chrétiens qui ont faussé l'enseignement sur la résurrection. C'est-à-dire qu'il faut haïr le corps, il faut détester le corps, il faut maltraiter le corps pour que l'âme puisse s'épanouir. Et beaucoup le font même aujourd'hui sans le savoir. Le mépris de la matière, le mépris du corps était la tendance qui affectait aussi et surtout l'Église au temps de Paul. C'est étonnant de la part de Paul, qui est très mystique et très spirituel, qui dit « Vous êtes à côté de la plaque ». Et dans ce texte, Paul renverse totalement cette mentalité en véhiculant que le corps serait inutile. Comment a-t-il démonté cette idée ? Regardez bien, il ne va pas par quatre chemins. Il a pris comme argument choc la résurrection du Christ. Beaucoup ne font pas attention lors de la confession de foi, quand nous allons tout à l'heure, nous allons prononcer notre confession de foi, même si on ne va pas prononcer le symbole des apôtres, mais rappelez-vous du symbole des apôtres, quand on dit « je crois à la résurrection de », on ne dit pas « je crois à la résurrection », point. Résurrection de la chair. Donc l'accent se porte surtout sur le mot « chair ». Pourquoi ? Il y a une nuance entre résurrection tout court et résurrection de la chair. Et rien que dans le langage courant que nous utilisons dans la vie quotidienne, dans la vie profane, même le mot « résurrection » aujourd'hui, on l'utilise en dehors de toute notion de foi. Et ce terme de résurrection pour exprimer, par exemple, un homme politicien qu'on croyait fini, un chanteur, un artiste, un footballeur, quelqu'un de connu, qui fait un retour en force dans le milieu où il était, d'une personne qu'on croyait qu'il était anéanti, qu'il était achevé dans les domaines de sa vie. Et lorsqu'il a pu rebondir de la vie, les journalistes utilisent le mot « la résurrection du chanteur ». La résurrection du footballeur, la résurrection de tel politicien. Et comme par hasard, on oublie tout ce qu'il avait vécu. Donc vous voyez, même le mot résurrection est utilisé dans la vie profane. Mais ici, ce que Paul nous veut faire comprendre, c'est que le salut touche aussi le corps. Et donc je vais orienter votre vision vers cela. Ne vous laissez pas seulement vous enfermer dans une bulle, que l'esprit, l'âme, nous sommes faits corps, esprit, âme. Cette mentalité grecque de séparer le corps, l'esprit et l'âme n'est pas du tout biblique. Les trois ne peuvent jamais se séparer ici-bas et là-haut. Oui, nous ne serons pas qu'esprit là-haut. Nous serons physique, corporel, esprit et âme. Le salut n'est pas réservé qu'aux âmes, donc ne parlons pas que le salut des âmes, mais c'est le salut de l'homme, oui. La libération que Dieu nous donne est une libération totale, libération de l'esprit, libération de l'âme, libération du corps aussi. Et l'argumentation de Paul dans cet épître, si nous essayons de la traduire de façon très simple, c'est de nous dire que notre foi alors serait réduite qu'au même niveau que la philosophie, si nous disons seulement la résurrection, c'est quelque chose de spirituel. Alors nous sommes que dans la philosophie. Et la religion chrétienne, la foi chrétienne n'est pas une philosophie, c'est une vie réelle. Voire même une démagogie, si nous limitons le salut de l'âme. Regardez le verset 13 et 15 de notre texte de tout à l'heure. Je reprends ce passage. Si c'est vrai, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie, et si le Christ n'est pas revenu à la vie, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu, puisque nous avons affirmé qu'il a ramené le Christ à la vie. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne reviennent pas à la vie. En d'autres termes, nous ne faisons que de perdre du temps ici au boulevard d'Herbat, si nous nous réunissons ici au temple, pour ces temps de culte, rien que pour l'âme, rien que pour l'esprit, puisque le Christ n'était pas ressuscité dans le corps. Il y avait un pasteur protestant qui a osé prêcher un jour de dimanche de Pâques que le Christ n'est pas ressuscité physiquement, mais son enseignement reste toujours vivant, et c'est ça la résurrection. Vous imaginez ? Un pasteur protestant qui ose prêcher ça. Parce que tellement dans notre conscience protestante, on est tellement dans ce milieu que spirituel, et le monde physique pour nous est mauvais, diabolique, satanique. On a diabolisé le corps. S'il n'y a pas de résurrection de la chair, Paul est très clair, la foi chrétienne ne tient pas la route. S'il n'y a pas de résurrection de la chair, la foi chrétienne devient une philosophie, mais pas une foi. Et ce qui est renversant dans tout cela, c'est que Paul, pour Paul, finalement, la foi n'est pas qu'une question de spirituel. La foi, elle est palpable. La foi doit être concrète. La foi doit être corporelle aussi. Rappelez-vous quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a dit à Thomas, viens, approche-toi, touche. Et dans la traduction que nous avons, elle n'est pas vraiment correcte, qui dit touche, mais dans le grec, il dit, introduis tes doigts à l'intérieur de mes côtes. Ce n'est pas juste palper, hein. C'est-à-dire pour vraiment vérifier si j'ai un corps ou pas. Jésus avait dit à ses disciples, donne-moi à manger pour vous montrer que je ne suis pas un fantôme. Je pense qu'à une certaine époque, on a tellement maltraité le corps, on l'a diabolisé. Mais si Dieu lui-même a pris la peine de nous façonner, qui signalons-le à son image, ce n'est pas pour rien, non? S'il a pris le temps, il aurait pu dire que l'homme soit. Il aurait pu faire ça, et tout à coup, quelque chose qui bouge dans la boue. Et cela. Mais il a pris le temps de se baisser, de prendre la boue, de nous façonner. Si vous lisez la Genèse, seul l'être humain, Dieu a pris du temps. C'est comme un architecte, c'est comme un artiste qui met toute sa passion, son cœur là-dedans, à son image. Ça veut dire que c'est quelque chose de très bon. Et même Genèse 1.31 dit clairement, quand il a fini de créer l'homme, il a dit qu'il a trouvé cela très bon. Quand il a créé le monde, il a seulement dit, il a trouvé que c'est bon. Mais quand c'est l'homme, il a dit c'est très bon. C'est-à-dire c'est parfait. Or, le message que nous entendons, or ce que les gens veulent nous faire croire, tu n'es pas si bon que ça. On vient dans le catéchisme d'adulte tout à l'heure, on parlait de la chute. C'était quoi la ruse du diable quand il a fait croire que vous allez être comme Dieu une fois qu'ils ont croqué aux fruits de fondu? Quel est le premier réflexe? C'est quoi la mort? Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et on croyait qu'ils n'étaient pas morts parce qu'ils n'étaient pas encore décédés. Mais la mort, c'est que dès qu'ils ont mangé aux fruits défendus, ils ont vu qu'ils étaient quoi? Nus. Mais c'est ça la mort. Pourquoi? Ils étaient déjà nus, mais c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils n'ont plus accepté leur corps, leur nature, qui ils étaient. Et Dieu a dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que votre nudité est problématique? Depuis toujours, vous étiez nus. Et comment ça se fait tout à coup? Vous dites que vous êtes nus maintenant. C'est ça la mort. Quand vous commencez à ne pas accepter ça, mais que vous écoutez les autres, vous êtes foutus. Parce que c'est les gens qui vont vous imposer quelque chose. Toi, t'es pas bien là. Toi, oui, ça va. Ils vont vous donner des notes. C'est ça, le monde. La télévision, les médias, l'éducation.
Mais Dieu va te dire, mais qui t'a dit que tu es comme ça? Est-ce que tu as déjà posé la question à moi qui t'a créé? Qui vas-tu écouter? Ton voisin ou moi? Dieu lui-même a été satisfait quand il avait terminé de créer l'homme. Et le texte dans Genèse a bien souligné la grande satisfaction de Dieu par rapport à cela. Cela veut dire que l'homme, au grand complet, corps, âme, esprit, est très bon. Et quand le péché est entré dans le monde, le péché a atteint tout l'être, mais pas seulement l'âme. Alors comment se fait-il que nous avons une moindre considération du corps? Et pourtant, je peux vous dire, à entendre Jésus dans les évangiles, il précise bien que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de notre corps, qui rend l'homme souillé, mais ce qui vient de l'intérieur. Vous voyez, même ce qui nous rend souillé, ce n'est pas le corps, c'est notre âme. Ce que nous faisons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous avons en nous. Donc pour moi, le message de résurrection devrait changer notre considération de ce corps que Dieu nous a donné. Et dans ce même chapitre, Paul parle même d'un corps céleste, un corps glorieux. Les Grecs pensaient qu'une fois qu'on est décédé, on est libéré du corps, alléluia, je suis libre, je peux voler comme un oiseau partout. Non. Si tu quittes ce monde, tu quittes ce corps poussiéreux, un autre corps t'attend. Est-ce que c'est pour toi une prison? Un corps céleste. Un corps qui n'appartient pas à ce corps. Je ne sais pas comment est la forme, mais je suis sûr, il est parfait. La résurrection de Jésus a un impact sur notre corps que je qualifierais de transfiguration. On connaîtra cette transfiguration. Et en s'inspirant justement de la transfiguration de Jésus sur cette montagne, ils avaient vu Jésus tout le temps, tous les jours, mais ce jour-là, ils avaient remarqué qu'il a changé. Et pourtant, c'était le même Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Son corps qui n'était pas si remarquable que cela tout au long de son ministère, mais exceptionnellement ce jour-là, il avait montré une sorte de prélude de ce qui va les attendre de l'autre côté. Le corps du ressuscité sera transfiguré, ton corps sera transfiguré. C'est pour cela que la mort n'est pas une perte pour l'être humain. La mort, c'est une libération. Parce que ce jour-là, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début où tu seras bien dans ta peau, à la lettre, mais pas dans ton âme. C'est plus qu'une métamorphose, comme le papillon. C'est lui rendre la gloire qui lui est due, cette gloire que Dieu t'a promis. Vous serez là où je serai, c'est-à-dire dans un corps comme le sien. Est-ce que vous avez imaginé que tu auras un corps comme celui de Jésus? Ce n'est pas un corps en dessous de Jésus, le même corps que le Christ. Ce corps qui n'a jamais connu de péché, ce corps qui n'est pas limité dans le temps, de l'espace, ce corps qui sort du rationnel. C'est pourquoi qu'il est possible que ce corps imbibé de péché peut être libéré du joug de l'esclavagisme du péché un jour. Peut être libéré de toute forme d'addiction qui puisse exister. Et Jésus nous a promis ceci. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Alors demande-lui, de quoi es-tu libéré? De quoi es-tu sous le joug de l'esclavage? Celui qui va te donner ce corps peut te libérer de cela. Amen.